Bonjour à tous, je suis Dylan Malone et à mes côtés, donc Inglorious Berserker, un revenu sur Twitter pour plus de passion par les films, séries et pourquoi pas évidemment d'univers de comics. Comme vous avez vu l'intitulé, on revient à une fiction, de nos fanfictions, une nouvelle fanfiction, dans notre rubrique Pulp Fiction. C'est notre deuxième volet de Superman au sein de notre reboot du DCU, World of DC, enfin. Voilà pour résumer en gros. Donc pour vous récapituler et faire un petit rappel en quoi ça concerne ce genre de mission. En somme, comme beaucoup de monde, on a aimé des choses dans ces univers-là cinématographiques, mais on a été déçus aussi par pas mal de choses et dont la gestion de cet univers ciné par la Warner Bros. Car il faut savoir que Warner, grand pilier de films, hein, qui ont notamment produit des films comme Harry Potter, ont du mal à gérer l'univers DC, qui est leur filiale depuis plusieurs années, voire décennies. Et du coup, avec l'ours Martin qui va se représenter dans quelques instants, pour ceux qui débarqueraient maintenant, eh bien, on voulait revenir et vous raconter notre second récit, second volet. Et donc quatrième de notre DCU à nous, ce second volet sur l'homme d'acier tout simplement. Donc on espère que ça vous plaira, on espère que vous écouterez jusqu'à la fin parce qu'il y a pas mal d'informations et de personnages de l'univers Superman assez sympa on va dire entre guillemets à suivre et en tout cas à découvrir. Et pour petit rappel, le premier c'était Angel of Metropolis, donc du coup petit clin d'œil à la série des années 90. On a eu le second, Batman la cour des hiboux. Donc voilà, évidemment, ceux qui ont lu savent de quoi on parle. En tout cas, un petit peu pour la source d'inspiration. Et le troisième, sorti il y a peu, Wonder Woman, The Mysterious Child, donc on peut traduire par le mystérieux enfant, basé sur les comics New 52 d'Azzarello, pour ne citer que lui. Voilà, donc Ours Martin, je t'en prie.
Alors, bonjour à tous, moi c'est l'ours Martin et effectivement dans cette fiction je prête ma voix au récit d'Inglourious Berserker, hein, notamment parce que moi aussi j'ai été un petit peu déçu du traitement qui était offert à l'homme d'acier et moi j'en aurais bien donné un autre à cet ange de Métropolis, cet enfant hybride de Krypton et de Smallville. J'ai nommé Clark Kent, Kal-El, as known as Superman. Voilà. Eh bien, je pense qu'on va passer au récit
C'est
maintenant.
ça, tout à fait. Du coup, on se retrouve dans quelques petites secondes pour vous mettre un petit opening soundtrack des familles, voilà, qui, je pense, fera plaisir à certains. Et du coup, voilà, de retour pour vous parler, vous introduire notre Superman, notre second volet, une nouvelle fois, évidemment, comme dit plus tôt, de l'homme d'acier, donc ici, comme vous avez pu voir, qui s'intitule Superman 2, Last Kryptonians, donc les derniers Kryptoniens. Voilà, vous allez comprendre évidemment pourquoi, directement dans quelques instants, surtout si vous avez écouté le premier qui introduisait un certain personnage de l'univers du fils de Krypton, de Kal-El. Voilà, donc let's go. Ce serait une introduction, en tout cas filmée, première petite séquence du film qui durait plus ou moins 5 à 10 minutes. Donc voilà, ce serait peut-être la plus courte pour l'instant de notre univers. On démarre comme avec celui sur Batman avec une séquence d'action où l'on voit notre boy scout Clark Kent et qui est Superman accompagné par sa cousine Kara. affronter un être humanoïde redoutable. Donc là, ses dons pouvoirs seraient la super vitesse, la force surhumaine, projection d'énergie. Donc on peut s'imaginer une certaine sous forme de d'une lueur peut-être jaunâtre. Voilà, être quelque chose d'assez puissant, pouvant peut-être rivaliser avec leur supervision. L'endurance, le vol, émanant et venant de la radioactivité que la personne aurait gagnée par diverses choses et dont le cœur est devenu noir tel un bois qui vient d'être carbonisé, pour vous donner un peu l'aspect physique aussi du personnage, et où l'on pourrait y voir des pièces dorées mécaniques probablement utilisées pour l'aider à gérer cet intense don entre guillemets. Le personnage serait Reactron, apparemment vu dernièrement dans la série Supergirl, très bonne série, je lol, de la CW. Il émane tellement qu'après quelques instants, Clark Kent, donc Kal-El, finit par se dire que la seule chose qui pourrait le stopper, c'est du plomb, donc coucou Man of Steel. Clark ayant retenu ses cours de sciences du lycée et ou de la fac, donc là on pourrait avoir un truc... peut-être avoir un très bref flashback dans sa tête, voilà, au moment où on dit cette ligne. Il fait comprendre ou il discute assez vite avec sa cousine pour lui faire saisir qu'il faut amener ce personnage Reactron dans un endroit où il y en a davantage, c'est-à-dire ici, en ferrailleur de Métropolis. Donc on peut s'imaginer, déjà ça fait plaisir je pense, peut-être que Martin donnera son avis, d'aller aussi quelque part, Métropolis c'est la belle ville de l'univers d'ici, la ville lumière quelque part, la ville un peu dirigée futur, et bien de voir qu'il y a des coins un peu sombres, même si on serait dans une séquence en plein jour, enfin voilà, montrer que c'est une ville normale hein, en quelque sorte. Les deux justiciers enfants de Krypton finissent donc par arriver au fameux endroit. Après plusieurs minutes de fight, de baston, on va dire un peu intense dans les airs évidemment, où l'on pourrait voir Kara avoir dur à gérer encore quelques-uns de ses dons. Ils réussissent grâce à ceci, force surhumaine, etc., vision thermique, et surtout à leur union à l'arrêter, ils le poussent, éjectent des pièces de plomb contre lui. Qui réchauffe fortement avec leur vision thermique évidemment et dont qu'ils font fondre sur lui. Il finit tel une statue prête à être exposée. Donc on peut s'imaginer voilà la séquence de fight a été en vol et puis ça se dirige vers le sol. C'est peut-être un léger et probablement j'ai dit peut-être mais surtout un gros clin d'œil à Han Solo pour les fans de Star Wars ou dans l'épisode 5 de l'univers interstellaire de Empire Strikes Back, donc l'Empire contre-attaque, où il se fait enfermer dans de la carbonite. Voilà, la fameuse scène où avant il dit je t'ai, où Leia dit je t'aime et lui répond je sais. Voilà, I know. Et je vous laisse et redonne le mieux de la parole à Martin pour passer après cette belle séquence d'introduction, je pense, selon nous.
Alors, tout à fait. Voilà. Après, oui, cette carbonite, ça me fait penser aussi à la scène de fin des premiers ces premiers quatre fantastiques.
Mais peut-être que ça vient de là inconsciemment. Peut-être que j'ai fait quelque chose.
Le docteur Fatalis. Voilà. Ah, mais bon, c'est sympa. Alors, donc, une transition avec des plans de couple. Là, on pourrait apercevoir. Lois Lane, qu'on connaît déjà, aux côtés d'une jolie blonde, à peu près une trentaine d'années, le personnage, ce personnage prénommé Cat Grant, voilà, journaliste elle aussi, et donc les deux donc appartiendraient, les deux journalistes, hein, donc au journal des Planètes, apprendraient aux téléspectateurs qui les regardent que ce fameux Reactron est Benjamin Krullon, un ancien gardien de sécurité du Star Labs, voilà, donc encore une fois, ceux qui ont écouté le premier podcast sur Superman se souviendront, et donc voilà, qui
pour des raisons qu'on ignore en tout cas pour l'instant,
va exploser.
Mystérieuse, voilà, quoi, ça, c'est pas très clair.
Donc ensuite, voilà, pour l'instant, on sait pas. Ensuite, donc, on revoit Clark Kent, donc Superman évidemment, donc Clark, Lois, Lane et Kara qui sont à Smallville. Donc on estime, hein, bien sûr, c'est pas au même moment, c'est peut-être 2-3 jours plus tard. Ils sont en train de manger le déjeuner auprès de Martha Kent. Et il y a Pete Ross qui est venu dire bonjour à son meilleur pote, Clark. Et ce serait vraiment un moment convivial typique, hein, là, de notre duologie sur le Superman. Donc on prendrait un peu le temps aussi d'avoir un moment humain, de voir ce que ça donne quand tous ces personnages se côtoient. Voilà, sachant que on a pour ceux qui ont vu Smallville, on peut avoir une assez bonne image de la scène, hein, ce que ça peut être dans la cuisine chez les Kent. Puis soudain, voilà, il déjeune, mais quelques minutes plus tard, la maison se fait attaquer par deux mystérieux robots qui arrivent en disant kryptonien. 20224, bon, c'est un chiffre au hasard, mais mettons, ça peut être un matricule. Voilà, kryptonien 20224 et 20230 trouvés. Voilà, ils doivent les ramener morts ou vifs. Imaginez-vous un petit peu comme des marshals américains venus chercher un prisonnier en fuite. Ils ont un mandat d'arrêt. Donc là, bah, vous l'avez compris, bah, Clark et Kara, sans leur costume même, et bah, ils se débrouillent quand même pour leur faire évacuer rapidement la maison. Voilà, donc il y a un combat qui débute, mais c'est rapide, hein, ça dure grand maximum 5 minutes, parce que de toute façon, c'est quand même Superman et Supergirl, quoi. Ils sont balèzes. Donc après en avoir terminé avec eux, c'est là qu'ils reviennent à la maison pour voir si tout va bien, si tout le monde est OK. Et puis ils repartent, là, avec leur costume, et les robots sous le bras, parce qu'ils partent direction la forteresse de Solitude, qui est située dans le grand nord du Canada, donc une région très peu, voire pratiquement pas habitée, hein. Vous voyez les régions inuites totalement désertes, où il n'y a que de la neige et du froid. Donc on rappelle que la forteresse de Solitude serait un ancien vaisseau de Jor-El.
Évidemment, excuse-moi, évidemment, le design différerait de la version Snyder. On essayerait d'avoir un mix des deux visuellement, de la version et vision de l'équipe de Snyder et de ce qu'on a connu, en tout cas pour certains d'entre nous, dans les premiers films Superman, donc avec les cristaux de glace, etc. Avoir un beau mix artistique des deux. Mais enfin, on vous laisse imaginer, pour ceux qui nous écouteraient.
Bah, de toute façon, le principe, voilà, de la forteresse de Solitude, il est amené donc dans les films, les premiers films pas Superman, il est amené à la série Smallville. C'est de toute façon un endroit où voilà, un ordinateur avec la conscience de Jor-El repose, et normalement toute la connaissance des Kryptoniens. Donc Jor-El, hein, le père biologique de Superman. Donc là, on change de décor. À la suite de leur vol, ils arrivent dans le ciel du grand nord canadien, et au loin, on pourrait voir la fameuse forteresse. Donc on s'imagine un vaisseau kryptonien amélioré ressemblant à un crâne, et ensuite en transition, on rentrerait dedans, on y verrait quelques pièces, dont une des miniatures de villes aliens, en tout cas qui n'ont pas l'air humaines, enfermées sous verre et suspendues au plafond de celle-ci. Et le tout avant de revoir, en fait, tout simplement, le futur et grand ennemi Brainiac, parce que rappelez-vous, hein, on l'avait déjà vu un petit peu avant. Et Brainiac est en train de se charger, si on peut appeler ça comme ça, sur une matrice, hein, des câbles branchés à son crâne, parce que lui est dans une sorte d'espèce de grand chargeur, voilà, en acier kryptonien. Parce qu'on rappelle que Brainiac n'est pas un être entièrement biologique. Là, on revient sur Clark et Kara, qui sont désormais dans la forteresse de Solitude de Clark, et ils sont en train d'échanger sur les mystérieux robots jusqu'au moment où Kara fait une tête choquée, apeurée, limite attristée. Et là, en fait, Clark lui demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et là, elle finit par lui dire que qu'elle voit que ce sont des machines qui sont envoyées par Brainiac, voilà, justement.
C'est ça. Et du coup, pour revenir avec un de vos reporters du Daily Planet, peut-être préféré, premier flashback, hein, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis dans un récit, mais surtout parce que ici c'était le moment où on trouvait en tout cas utile. On verrait la destruction de Krypton, donc retour évidemment à ce qu'on a pu voir dans le tout début de Superman à l'écran, en tout cas selon nous, mais dans plein d'adaptations, vu par les yeux ici de Kara, donc qu'on imagine plus jeune évidemment, enfin. Même si physiquement, pour ceux qui connaissent, elle est restée, elle a gardé son physique de jeunesse. Mentalement, elle était un peu plus jeune, voilà. Et où on apprendrait donc que Kara s'appelle Kara Zor-El. Hein, donc voilà, on vous l'a dit plus tôt, c'était sa cousine. Pendant ce flash, on verrait une Kara tout autant apeurée qu'il y a peu, accompagnée de ses parents à bord d'un bolide, donc un véhicule. À l'allure futuriste, allant vite afin d'échapper à la prise Brainiac de la ville de Kandor, souvenez-vous, capitale de Krypton qu'on présentait dans le précédent épisode de Superman, où il y avait eu la fameuse tentative de prise de pouvoir par Zod et Brainiac. Malheureusement, s'étant rendu compte plutôt du très peu de temps qu'il leur reste, et voulant la sauver, ils s'arrêtent à peine quelques instants, par rapport avec leur véhicule en tout cas, et mettent Kara dans un vaisseau kryptonien de secours se trouvant dans le sous-sol de leur maison. Voilà, parce que c'est arrivé, voilà, ça, on est vraiment dans une séquence qu'on peut retrouver dans le film d'animation. Je sais plus le nom, mais de toute façon, si vous mettez Superman Brainiac, je pense qu'il y a moyen de trouver rapidement. C'est ça.
C'est
ça.
Le film d'animation de l'époque, des années 90.
Et donc, ce serait une séquence bien plus vive que celle de l'introduction kryptonienne de notre homme d'acier. Enfin, plus vive, ça dépend comment on le voit. Ça dépend comment on le voit. On y verrait des gens avoir peur, mourir. Donc là, c'est un truc qu'on n'a pas spécialement vu dans. Dans le premier, hein, encore une fois, parce qu'on était dans des enjeux géopolitiques dans le premier, voilà. Là, on montre vraiment qu'il se passe pas des choses très sympas. Pourquoi ? Parce que hein, on verrait, donc on vous a introduit des machines de Brainiac. Ici, on en verrait plusieurs planter leurs mains sur des fronts, donc des Kryptoniens, et dire des choses de ce style. Vous mourrez car vous êtes un être faible. Vous venez avec nous car vous serez utile. Ce serait un peu pour ceux qui ont vu la série Malcolm. Toi tu vis, toi tu crèves. Voilà, en gros ce serait ça. Voilà, c'est ça. En gros c'est ça. Voilà, pas passer par quatre chemins, c'est comme ça. Lors de la fin de notre flashback, on verrait le vaisseau où Kara partir à peine de la planète, et quand celle-ci explose, le vaisseau se fait éjecter. Donc voilà, on imagine qu'il est pas trop loin de l'explosion, et du coup, se fait, à cause des radiations, l'explosion, quelque part, se fait, endommager en touchant peut-être une météorite, un des morceaux, en tout cas, de la planète qui aurait, explosé et s'est en fait éjecté aussi. Et du coup, qui mettent le vaisseau, on va dire, un peu en stand-by, en break, du coup, Kara tombant dans un certain coma, dont la trajectoire était évidemment celle de la Terre aussi, hein. Pour rappel, une nouvelle fois, vous l'avez entendu, c'est la cousine de Superman, c'est une L. Donc, évidemment, voilà, c'était prévu qu'elle aille là-bas. Comme dans le comics de Geoff Johns se présente Superman, tome 5, Brainiac, sur lequel notre histoire se base, on recentre l'action sur Clark et Kara, où l'on verrait la prendre, où on verrait ce dernier la prendre dans ses bras et la rassurer. Peu de temps après, on pourrait voir à l'écran qu'il lui dirait qu'il part pour la zone fantôme. Donc voilà, première introduction au cinéma de la fameuse zone fantôme, où on serait retenu, où serait retenu. Là, on en ferait une genre de prison. C'est en tout cas, je parle visuellement en termes de live action, ce serait la première fois puisqu'on a pu voir cette zone fantôme. Pour ceux qui aiment bien un peu la comédie, dans Lego Batman, où plein de vilains de l'univers plein de vilains tirés de films adaptés par Warner Bros se trouvent, mais voilà, je vous en dis pas plus, regardez-le.
Oui. Ouais. La zone fantôme est aussi représentée dans la série animée des années 90, hein, l'ange de Metropolis,
et elle est aussi, autant pour moi, je m'en souvenais pas,
présentée dans le tout premier Superman de Richard Donner. Voilà, Zod, en fait, le film de Richard, le premier Superman s'ouvre sur le procès de Zod, où Jor-El exerce en fait en termes
okay, d'inquisiteur. Ok, ben voilà, un clin d'œil.
Et donc, à la fin, Zod est condamné,
mais malin aussi. Dans voilà. Donc, ben, c'est totalement ça. Ici, on aurait Zod et évidemment Jack Sir. Hein, souvenez-vous, le premier, enfin, l'un des scientifiques les plus importants de Krypton, en dehors de Jor-El et de son frère, ainsi que certains de leurs hommes, car ils auraient besoin de savoir de ceci afin de trouver une solution pour stopper Brainiac, évidemment, parce que il faut savoir, même si il y a des données dans la forteresse de solitude, c'est pas clair, il manque des trucs. Donc il se donne pour mission d'aller régler quelque part sagement, on va dire, pour pas attaquer Brainiac de front et au risque d'y laisser la vie, lui et sa cousine, de mettre la Terre en péril. Il se donne pour mission, du coup, d'aller chercher ces informations dans la zone fantôme et auprès de ces personnages, voilà, introduits plus tôt. On le verrait donc partir à bord d'une des capsules du vaisseau mère, faisant office de forteresse une nouvelle fois, sous le regard attristé de sa cousine, ne pouvant donc rien faire à ce moment-là. Et avant de redonner la parole à Martin, on serait de retour à Metropolis, et on serait peut-être à une heure de métrage, voilà, il s'est déjà passé beaucoup de choses, je pense que vous l'avez compris. Brainiac réveillé commence la capture de celle-ci, on y reverrait ces machines choisir les êtres qui selon eux sont aptes encore à vivre ou pas, et à faire partie de leur aventure, entre guillemets. On verrait au Daily Planet où certains reporters, dont Lois, les affronteraient avec ce qu'ils ont sous la main. Donc voilà, là j'ai voulu, je sais pas si ça s'est fait, peut-être que Martin me dira, je m'en souviens plus trop, parce que je l'ai regardé il y a longtemps aussi, Lois et la série Lois et Clark, avec les fameux acteurs Dean Cain et Terry Hatcher. Mais j'ai voulu, là pour le coup, donner un côté un peu badass, physiquement, au personnage de Lois Lane. J'ai voulu, par ce passage, montrer qu'elle s'est un peu débrouillée toute seule aussi, et de femme forte par ce genre d'action, en tout cas au niveau de comment elle gérerait ce genre de situation, voilà. Pas montrer qu'on est dans les années 2020 aussi, et qu'on n'est plus sur des genres de clichés où toutes les femmes sont doivent être sauvées, voilà quoi. Donc on pourrait imaginer, comme je l'ai dit, une Lois badass avec une genre de hache de secours. Voilà, je sais qu'il y en a des fois à disposition dans certains bâtiments. En décapité, en massacré, voilà, mais toujours dans le raisonnable des choses, avec à ses côtés, n'oublions pas, l'un de leurs jeunes stagiaires le plus connu d'entre eux dans l'univers du Superman, Jimmy Olsen, donc ici qu'on garderait en rouquin, un peu geek, mais version 2020, pas trop dans clichés non plus, qui serait à ses côtés, et ça prendrait au moins 5 minutes de les voir les deux en action. Ensuite, on reste dans Metropolis. L'armée américaine pourrait être de la partie aussi, évidemment. Là, ça ferait un peu écho à Men of Steel, mais un petit peu de réalisme quand même aussi, avec les avions s'attaquant aux vaisseaux et se ferait détruire, hein, voilà, sans trop de difficultés par le vaisseau de Brainiac. Et sur ces mots, je redonne le micro avec plaisir à l'ours Martin. Voilà.
Ah oui, bah écoute, hein, je reprends la parole, donc effectivement...
Est-ce que les gens vont s'en sortir ou pas du tout?
Pleine tragédie, voilà, mais Metropolis se fait attaquer. C'est amusant que tu me parles de Jimmy Olsen, je crois que c'est le mec qui a été le... C'est le stagiaire univers, c'est le stagiaire perpétuel.
Est-ce que le gars a aucun CDI dans le troisième volet?
Le mec, il aura jamais un CDI.
Bon, encore une fois, excuse-moi.
Il n'y aura jamais son contrat, il sera toujours en stage.
C'est un peu l'universitaire qui fait un peu ses débuts, ouais, peut-être que par la suite, voilà quoi.
Mais c'est exactement ça, hein, c'est ça. C'est exactement ça, c'est le gars qui est en train
de faire. Imaginez Peter Parker dans Spider-Man de Sam Raimi, voilà, c'est à peu près ça.
Il peut se rendre un peu utile auprès de tout le monde, hein. C'est ça, mais c'est exactement ça. Jimmy Olsen, c'est un décalque de Peter Parker sans pouvoir. Mais bon, il est quand même assez cool. Après, Loïs, ouais, on parlait de Loïs et Clark, je fais juste une petite digression dessus. J'ai pas tellement souvenir que là, Loïs était ultra badass. Mais par contre, dans Smallville, c'était
c'était
déjà
pas une
une fille
potiche, quoi,
qui
c'est
s'est pas
ça, tu
marchée
veux
sur les
dire.
pieds. Elle était pas, enfin, elle se bastonnait pas outre mesure, mais clairement, elle savait mettre un coup de poing ou un coup de pied quand il fallait. Ouais, donc voilà, ça fait déjà quelques temps que, parce que la Loïs qui se fait tout le temps enlever et qui est tout le temps en danger, ça fait longtemps qu'elle est plus là. C'est vrai que dans les premiers comics, Superman devait la sauver un épisode sur deux. Là, un petit peu moins. Bon, voilà, fin de la digression. Metropolis attaqué. Brainiac qui envoie ses robots. Là, on revient sur Kara, donc on la voit dans son super costume, qui détruit justement ses robots dans les rues de Metropolis. Avant, bon, de se fâcher un peu plus, c'est de partir vers le vaisseau de Brainiac, dans lequel, ben, elle rentre de force. Elle fait un trou dedans, mais bon, ça l'endommage pas trop, il continue à voler. Et on peut même imaginer qu'il se fasse réparer
C'est
par
ça, c'est un
plusieurs
vaisseau
robots.
très avancé technologiquement, donc
Ben voilà, même les robots réparateurs pourraient mettre mise. Oh. Voilà, imaginez, c'est. Pour ceux qui connaissent Star Trek, imaginez un peu comme les Borgs. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, bah Brainiac finirait par lui tomber dessus. Parce que, bon, elle est quand même chez lui. Parce qu'elle a débarqué dans la pièce qu'on a vue, hein, lors de son éveil. Là, elle lui déclare en quel... Et là, il va lui déclarer que, en fait, elle est totalement inconsciente, que c'est qu'une enfant, et que maintenant, elle va savoir ce que c'est que d'avoir dérangé pendant que, il est en train de faire sa grande œuvre. Donc, il réussit à l'arrêter assez vite, hein, peut-être après 2-3, enfin 2 à 5 minutes de combat. Et puis il lui branche, voilà, certains de ses câbles sur la tête. Et donc on pourrait voir Kara qui crie, qui a peur, elle pleure. Et en fait, Brainiac, tout simplement, lui fait transférer tout son savoir. Et bah, autant vous dire qu'en fait, il est énorme, hein, parce que Brainiac, en plus, c'est un nom
C'est
tiré
ça.
de cerveau. Hein, c'est pour dire que
Bah,
c'est
c'était
vraiment un être
l'intelligence
qui
première
repose presque
de Krypton,
exclusivement
hein, hormis
sur son
Jor-El.
savoir, le savoir et son arme. Voilà. C'est ça. Donc le savoir est son principal pouvoir, finalement. Donc bah, autant vous dire que tout ça, c'est énorme. Les connaissances, en fait, lui venant, entre autres, de tout son passé, mais également de toutes les villes de l'univers qu'il a volé et miniaturisé. Donc là, on revient ensuite sur notre Clark, qui là a presque la trentaine, hein, en apparence, qui s'approche de la zone fantôme. Et arrivé donc à destination, Clark voit que celle-ci est donc bien la prison que la forteresse de solitude lui a pris. Et elle est gardée, surveillée en tout cas par des Green Lanternes, qui sont la police de l'espace, hein, qu'on avait vu un peu aussi dans l'épisode précédent. Donc, amicalement, hein, puisqu'ils en ont, ils ont rien à voir avec Cal, ils décident en tout cas de les accompagner, en tout cas par un ou deux Green Lanternes, dans une salle où on retrouverait Zod et Jaxxer, qui ont été amenés aussi. Pour les besoins de l'échange. Hein. Imaginez comme un parloir de prison, hein, parce que c'est ce que c'est une prison. Voilà. Et là, donc, on s'imagine aussi cette prison avec un côté très high-tech, même rétro-futuriste peut-être. Donc, excite les représentations d'univers parallèles fantomatiques, horrifiques, limite infernales, qu'on a vu même dans les animés. Là, on est plus sur du matériel. Donc là, on n'entendrait pas la discussion entre les personnages dans ce parloir. Là, on se concentrerait sur une transition de 2 petites minutes, peut-être un peu plus, mais pas vraiment, sur des Green Lanternes qui courent et qui disent qu'un certain Sinistro, voilà, vient de s'échapper.
On peut, excuse-moi,
donc,
on peut imaginer.
On envoie à ce moment-là d'autres Green
Lantern. Pas pour faire un doublon avec le truc.
Et au loin, on verrait
une fiction sur Batman. Ouais. Mais on peut imaginer qu'en fond, on pourrait entendre, comprendre qu'il y a un début d'émeute, en tout cas, et du coup, enfin, c'est un peu le bordel vu que Sinestro se tire à créer ce vacarme, on va dire, voilà.
Oui, oui, c'est un peu le bordel, hein, sachant quand je dis que les voilà, les Green Lantern partent à sa poursuite, c'est que, enfin, c'est vraiment, ils sont émeutés par d'autres. Il y a des gardiens qui se mettent à courir. Voilà, c'est comme une émeute de prison, voilà, une évasion. Et là, au loin, on verrait un être en costume jaune et noir, qu'on connaît aussi. Voilà. Voilà, en tout cas, pour ceux qui
donc
connaissent,
Sinestro,
c'est bien.
Hein,
de dos, il s'enfonce de plus en plus dans l'étendue spatiale qui est noire. Voilà, donc Sinistro s'est échappé. Et ben, en fait, pendant ce petit laps de temps, on aurait pu voir partir Cal avec son vaisseau, mais en profitant finalement de l'absence de gardien.
Bon, on peut se dire qu'il y a eu un accord quand même
avec ce vaisseau. Il y a Zod et Jaxxur avec lui.
Ça s'est joué à pas grand chose parce
que voilà, c'est un vaisseau qui était prévu que pour une paire. Ouais, on peut peut-être imaginer, mais on se doute qu'ils n'ont pas fait de gaieté de cœur. Et que peut-être Clark a négocié avec eux, mais globalement, deux prisonniers qui sortent de prison comme ça, c'est pas courant. Voilà. Et là, on pourrait se dire que lors de son départ, Clark leur rappelait que la mission était en quelque sorte donnée pour qu'ils puissent se racheter en fait, une trahison envers les peuples respectifs, et qu'en fait, il attend d'eux qu'ils ne fassent pas de coups fourrés. Voilà, donc, on est de retour sur Terre, à Metropolis, là, on y voit Brainiac qui termine la prise de celle-ci, et donc la fait miniaturiser, et il quitte enfin la planète. Là, l'action se ressent quelques instants sur le cratère, vide, enfin, à la place duquel il y avait Metropolis à l'avant. Et il y a les gens finalement qui étaient voisins de la ville aux alentours qui viennent.
Si vous avez vu Fantastic Four,
c'est impressionnant.
De Josh Trank,
une ville qui a disparu. Ouais. Et serait mon. Voilà. Ah, bon, donc imaginez, voilà, bon, aussi, encore peut-être une nouvelle fois, quelque chose qui alimentera la paranoïa qu'ont les Américains, enfin en tout cas là dans le comics, envers les êtres qui pourraient venir de la galaxie, voire même d'autres galaxies. Donc retour là sur le vaisseau de notre grand méchant, notre mastermind, Brainiac, là où on apprend qu'une intrusion vient d'être faite, voilà, via peut-être le système automatique du vaisseau. Parce que oui, c'est Superman qui débarque. Donc il rentre en arrachant les portes. Mais ses dons, ils ont diminué du fait qu'il était loin de la Terre, qu'il n'était plus dans les rayons du Soleil. Et là, les robots bréniens viennent pour réparer les dégâts, pendant que d'autres essayent d'arrêter notre homme d'acier, mais qui se font quand même massacrer parce qu'il est accompagné de Zod et Jaxxur, qui sont aussi sortis du vaisseau pour venir l'aider. Donc là, on peut imaginer que Zod et Jax seraient armés, voilà, de flingues kryptoniens. Ils n'ont pas encore la super force qui se déclenche quand les kryptoniens passent du temps au soleil, mais voilà, c'est pas au plein potentiel, mais on se dit que peut-être la vision X est déjà là pour voir à travers les objets. En tout cas, voilà, les deux, ils restent ensemble pendant que Superman, lui, avance jusqu'à retrouver Brainiac et sa cousine. Donc, Kara. Kara, qu'on peut imaginer avoir été traumatisée par son expérience à brancher à la machine de Brainiac. Donc, ça lui est même causé des séquelles physiques. Hein,
on peut se dire qu'il ne l'a pas tué, mais il a bien mouché.
Peut-être même la tête, pourquoi pas enflée, prête à exploser. Je ne sais pas. Voilà. Avant que Clark la libère, hein, et que le là il y a un versus, voilà, Brainiac-Clark qui débute. Donc Brainiac est un être semi-kryptonien et semi-machine.
Surtout qu'une nouvelle fois, excuse-moi, comme
forcément redoutable, Clark n'est pas son plein potentiel. Donc... ça va être intense, ça va être dur et bah, Clark est tout seul. Clark n'est pas à son potentiel et ce sera d'autant plus dur que bah, Kara est toujours sur le sol.
Eh bien, merci. Du coup, juste, je dois aller faire pipi. Voilà, c'est là que je vais tu sais mettre sur pause. Je te prie un petit moment. Ok. Du coup, ben voilà, retour, enfin toujours focus en fait sur Brainiac.
Ok. Ok.
Vas-y. Du coup, voilà, évidemment, on reste sur Brainiac. Qui aurait un look très semblable à sa version aux comics. Donc, pour rappeler, dont on tire notre récit, il aurait un costume semi-organique, semi-mécanique, noir et blanc. Donc, là, évidemment, ce serait une certaine évolution par rapport au très peu du teasing qu'on a montré dans la scène post-générique du premier volet. Il serait toujours grand et massif. Donc, même si là, on se rapproche plus ou moins du type de physique de Lex Luthor, il reste totalement différent, outre cet aspect-là. On imaginerait un être à l'allure d'Idris Elba, joué notamment dans MCU, dans la série Lucifer, que je recommande chaudement, ou encore, surtout, pour parler de SF, Star Trek Beyond, donc Sans Limite, qui était le troisième volet reboot géré par J.J. Abrams, il me semble, et surtout par les acteurs Chris Pine et je sais plus le nom de l'acteur.
Je crois qu'il était plus à la réal sur le troisième.
Simon Pegg, voilà. Simon Pegg. Du coup, Brainiac réplique un discours soigné pouvant être repris du comics, ou en tout cas amélioré, et faisant de lui un alien encore plus charismatique et puissant. Celui-ci, de ses propres mains, tente donc de l'arrêter, et de faire, comme avec sa cousine, un transfert de ses nombreuses connaissances. Kat se reprend, voyant que le vaisseau dans lequel il se trouve ne recevra plus de rayons du soleil, lui permettant d'avoir quelques-uns de ses pouvoirs, comme dit plus tôt, intercepte un câble, comme il peut, branché à l'arrière du crâne de Brainiac, et le met KO, entre guillemets, en tout cas pour, comme dit, comme vous avez pu comprendre, pour l'instant, on serait sûrement à une heure et demie de métrage, voire un poil plus, Kal, donc toujours Clark Kent, découvrirait étant appelé par des voix la salle où se trouvent des villes aliens et Metropolis, les voix étant celles de Lois, Jimmy et Perry, etc. Donc, si on veut faire un petit zoom, toujours très fluide comme on a pu le voir dans la scène d'intro dans une des scènes d'introduction d'Aquaman, eh bien, Perry, en tout cas, nous on l'imagine avec l'apparence de David Schumer pour vous remettre un peu le contexte du faciès, qui était Ross dans Friends. Mais pas que, voilà. Clark leur dit une phrase comme quoi c'est bientôt fini, ils pourront bientôt reprendre leur vie de tous les jours. Il essaye rapidement de les soutenir moralement. Par après, il prend et porte sa cousine, toujours inconsciente, suite au grand choc psychologique passé, et il la pose sur une table, on peut imaginer, d'opération, voilà. En tout cas, où certains robots se réparent, en quelque sorte. Jaxer s'en charge en quelques minutes, donc ils étaient à proximité, avant de reprendre les commandes du vaisseau, afin de le rediriger vers la Terre. Zod, ayant compris que Clark se retrouve sans ses dons, évidemment, se lance vers lui et commence à l'affronter au corps à corps. Donc voilà, on rappelle, vous l'avez compris, on est sur un jeune Superman, même s'il est en début de trentaine. Du coup, jeune du côté expérience. Donc ben, là, Zod retrahit à nouveau son peuple, hein. Exprimerait sa colère oralement à celui-ci, ne comprenant pas pourquoi ce dernier préfère se battre pour un peuple dont il ne partage pas le sang. Il voit même en lui tout ce qu'il déteste de Jor-El, qui fut, il y a bien des temps, son ami. Ça ne dure pas très longtemps, peut-être 5 minutes, parce que les robots de Brainiac s'étant arrêtés lorsqu'il fut KO, se remettent debout et les attaquent. Donc évidemment, reliés à leur maître, les deux adversaires se regardent et finissent par se rendre un sourire. On pourrait imaginer Zod déclarer à Clark, on remettra ça plus tard, car au final, pour un kryptonien vivant sur Terre, tu as l'air de savoir te débrouiller. On peut imaginer que ce serait un autre genre de phrase. Je sais que ça pourrait paraître brut, le changement comment dire, de veste, le retournement de veste de Zod. Mais là, encore une fois, c'est l'action. En tout cas, pour ma part, je trouve que c'était, par rapport à la suite de l'histoire, quelque chose à faire, voilà, pour peut-être redire. Ouais, vas-y, vas-y.
Sachant que Zod est quand même un pro de la trahison et du tournage de veste, hein, donc il est quand
voilà,
même capable
peut-être
de
aussi
sourire
par rapport
à
à
quelqu'un à
ce
qui il va planter un
que
couteau dans le dos.
Ce Martin a pu voir aussi de ce personnage. Donc, mais voilà, en tout cas, une nouvelle séquence d'action où les deux hommes s'affrontent presque côte à côte, hein, peut-être un clin d'œil, encore une fois, sans l'avoir fait exprès à la séquence finale de légère, hein, séquence finale de notre Batman. Brainiac réplique et se dirige vers Clark. Jax pourrait lancer un regard à celui-ci, lui faisant comprendre qu'il vient de rentrer dans l'atmosphère. Donc Clark, en fait, Jax lance un regard à Clark, donc Kal-El, lui faisant comprendre ben, que voilà, et on arrive, on se rapproche, on est dans l'atmosphère terrestre. Zod et Jax, donc, commencent à être pris de douleur, évidemment, parce que bah, y a l'atmosphère, mais surtout les rayons du soleil qu'on a par endroit sur la Terre, qui se déclareraient comme Superman à ses débuts. Donc, on pourrait, évidemment, là, c'est inévitable hein, de faire un peu comme Man of Steel aussi, ce qu'a eu Zod au début. Du coup, ça se déclare. On va pas trop lentement non plus. Hein, ça se déclare presque à leur plein potentiel. Et du coup, cela endommage le vaisseau, se crachant là, comme par hasard peut-être dans le cratère où était Metropolis. Clark Kal ne perd pas de temps et sait que sa dernière chance pour enfin arrêter l'être semi-kryptonien, semi-machine, à savoir Brainiac. Et c'est que c'est sa dernière chance, voilà. Il perfore le vaisseau en l'éjectant fortement. Donc voilà, ça traîne pas, hein, ils sont overcheatés maintenant. Donc on a pas mal, on se relève vite. Il éjecte fortement du vaisseau et lui dit une phrase de genre « Essaye de contrôler ça maintenant ». Et sur ces beaux mots d'action, je redonne le mieux de la parole sans l'envoyer trop fort à Martin.
Voilà, donc à ce moment-là, il retourne au vaisseau pendant que Brainiac, finalement, s'amincit, sèche, en fait, meurt petit à petit. Là, en fait, et puis il va vers Jaxer, qui lui reprend peu à peu ses esprits après l'arrivée de ses dons, finalement, un peu violente. Et là, il discute vite fait, et Jax se remet aux commandes. Mais Zod, lui, est toujours inconscient, pour le coup. Mais Kara, elle se réveille peu à peu, donc après toute cette agitation. Et avec Clark, justement, elle l'aide à réparer ce qu'elle peut du vaisseau endommagé. Quelques minutes plus tard, le vaisseau est maintenant sous le contrôle de Jax, en lévitation. Et Jax, en utilisant le vaisseau, remet Metropolis à sa place, en la déminiaturisant. Et désormais... déposé, il s'est posé dans le parc principal de Metropolis, donc le vaisseau là s'ouvre et nos personnages descendent. Là, Zod pourrait être porté sur une civière par exemple, et autour d'eux on y voit les citoyens de Metropolis, les flics avec les barricades, les reporters, les chevaux, l'armée américaine qui est encore là d'ailleurs. On peut imaginer aussi, et c'est là que l'Argus fait une nouvelle apparition, donc après le Batman de la cour des hiboux, et Amanda Waller apparaîtrait pour la première fois au sein de notre reboot. Mais ici, on imagine une femme afro-américaine élégante. Alors physiquement, Amanda Bassett, telle qu'imaginée par Inglourious Berserker. Donc un regard fort avec des paroles directes. Qui apparaît voilà. Donc, au sein de cette équipe de Argus. Donc les gens autour, le public aurait des pancartes avec inscrites dessus, des choses du genre You are a Messiah, thanks God, thank God, Superman, Supergirl, enfin vous voyez un peu le truc, des groupies. Donc un moment de gloire mais messianique, comme Superman sait en faire. Je parle de l'univers de Superman, bien évidemment. Voilà, Superman, c'est un peu le daron de la Justice League, même si c'est pas forcément le plus malin parmi eux. Donc, l'Argus prend en charge à ce moment-là Zod et Jaxer, pendant que Waller et Clark ont un échange un peu plus loin, on verrait. Et puis surtout que Kara là, se fait examiner par les médecins, encore une fois, de l'Argus. Brainiac, lui, de toute façon, il se serait fait écraser par la déminiaturisation de la ville, hein, parce qu'on se rappelle, il est tombé dans le cratère. De toute façon, il aurait fini par mourir car il n'est plus relié à aucune machine. Et sans être relié à ces machines, ça lui aurait été très dur ou même quasi impossible de rester en vie. Et c'est là, dans cette liesse populaire, qu'un homme métissé, un peu, en tout cas chauve et baraqué, sort d'une limousine. Ce ne serait autre que le célèbre Lex Luthor. Donc l'homme le plus populaire de Metropolis, en tout cas populaire parce que très riche, très puissant et puis intrigant aussi. Donc,
juste, excuse-moi.
Évidemment, hormis Superman. Excuse-moi,
je voulais faire un point pour le type de physique. Pour un indice, voilà, je suis tombé dessus en cherchant des acteurs comme ça. Même si on fait référence ici au type de physique des années 90 de ce Lex Luthor-là, si vous voulez voir un peu plus à quoi ressemblerait le personnage en live action, je vous invite à taper le nom Ranveer Singh, donc Ranveer Singh. Donc apparemment un nom assez important dans le cinéma indien et qui a incarné des vilains dans certains films. Et du coup, au niveau du faciès, correspondrait très fortement à notre visuel de ce Lex Luthor-là, quoi. Voilà, voilà. Mm-hmm.
Voilà, donc Luthor est sorti et il lance un sourire un peu énigmatique à notre homme d'acier. Un peu plus loin... on voit que en fait Waller commence à tirer la tête parce qu'en fait Luthor lui a certainement soutiré quelque chose ou en tout cas moyen de pression sur elle parce qu'il faut savoir que en plus d'avoir une notoriété due à son argent notamment et puisqu'il est aussi le PDG de la LexCorp ou Luthor Corp anciennement il y a des relations au sein du gouvernement américain. Et voilà, donc en fait, il a des moyens de pression à diverses strates de la société, et notamment en politique. Et on terminerait sur ça. On verrait Clark accompagné de Kara, qui dépose aussi la ville de Kandor, non loin de la forteresse Solitude, celle-ci retrouvant sa taille normale. Et les deux anges de Metropolis assistent à ça, donc... avec leur super costume. Et là, donc, Clark a sa cousine sous l'un de ses bras. Et puis, la fin, mais comme dans tout bon film de super-héros maintenant, il y a une scène post-générique. Et cette scène de post-générique, elle se passe 5 jours plus tard. On reprend Lex Luthor, qu'on avait rencontré quelques minutes plus tôt. Et Lex Luthor est là accompagné de plusieurs hommes, femmes d'affaires, à Metropolis, voilà, dans sa tour, des gens en costard, tirés à 4 épingles, qui s'avancent dans ce qui pourrait ressembler à un gigantesque laboratoire souterrain, donc voilà, dans les sous-sols de la tour, où plein de scientifiques et techniciens travaillent, voilà, tout le monde s'affaire. Et Lex se rapproche en même temps que la caméra, et là on verrait des hommes étudier des pierres aux lueurs verdâtres qu'on appellerait kryptonite. Voilà, ça rappellerait des choses à des gens. Et pendant que d'autres réparent aussi des robots de Brainiac, sur l'un de ces robots, on pourrait lire inscrit Métallo. Voilà. Et c'est là qu'on apercevrait aussi Zod et Jaxer qui sont mis dans des tubes cryogéniques. Et là, ce serait la fin complète de cet épisode de Superman, voilà.
Et du coup, voilà pour comme on fait en quelques instants pour ces fanfic slash rubrique dans notre Pulp Fiction. Qu'as-tu pensé de ce deuxième volet de Superman, de l'homme d'acier?
Écoute, c'était Moi, j'ai bien aimé parce que j'ai bien aimé parce qu'il y a des méchants que j'aime bien. Je vais pas te le cacher, surtout parce que Brainiac, il est cool. On introduit Lex Luthor. Et puis on introduit surtout les créations de Lex Luthor, enfin son travail sur la kryptonite. On introduit aussi le personnage de Metallo, qui parlera beaucoup à ceux qui connaissent l'univers de Superman. Voilà, moi c'est surtout pour les méchants et c'est vraiment surtout pour l'arrivée de l'introduction de Lex Luthor qui m'intéresse parce que c'est vraiment un de mes personnages préférés de. Alors d'accord, c'est un méchant, mais c'est vraiment un de mes personnages préférés de l'univers des super-héros en général. Sachant que je vais peut-être sembler un peu trop classique, mais moi, Superman, c'est mon super-héros préféré. Voilà. Donc pour tout ça, j'aime bien.
Écoute, ouais, je comprends, il n'y a pas de souci. Ben en tout cas, on espère que ça vous aura plu à ceux qui auront écouté. Moi, j'ai pris plaisir à nouveau à faire ça, voilà. Et puis, ben, ça me permet d'en découvrir davantage en une nouvelle fois sur l'univers DC en prenant de nouveaux comics, en regardant de nouveaux films d'animation que j'aurais peut-être pu rater, en échangeant, etc., sur le sujet. Donc voilà, on espère que voilà, comme ce matin, comme à moi, que ça vous aura plu. Comme on l'a dit en off, c'est vrai que c'est un gros point qu'on reproche au MCU, et je peux comprendre ce point-là. Et même dans la globalité, comme certains auteurs ont dit, si on a un bon méchant, déjà on part sur de très bonnes bases. Et puis comme inévitablement, comme certains peuvent très vite le comprendre aussi, si on n'a pas un bon méchant, on n'aura peut-être pas forcément un bon antagoniste, un bon héros, voilà, un bon personnage à qui on donne de véritables enjeux. Donc là aussi, on a voulu un peu dénoter de ce. On reste encore dans un schéma où il y a de l'action, mais où c'est pas le but, c'est pas les séquences où on en a le plus. On reste quelque chose sur un récit assez posé, au final. De ce que j'ai essayé de faire qui se rapproche de notre personnage Superman. Et donc là, peut-être pour le troisième volet, hein, parce que je trouve que c'est pas mal pour des personnages de focus sur des trilogies, pour pas en faire trop non plus et trop étirer leurs arcs. Voilà. On sera peut-être sur un Superman plus vieux, peut-être que Kara ne sera plus à ses côtés pour diverses raisons qu'on va peut-être énumérer dans son dernier volet. Et évidemment, un Lex Luthor omniprésent, hein, parce que là, à force de vous le tisser, bah, il faut envoyer la sauce, hein, par la suite. Donc, on espère qu'il y aura de belles choses. Voilà, en tout cas pour nous deux, et peut-être pour vous aussi. Et on vous dit à la prochaine, et n'hésitez pas à venir nous contacter au Daily Planet, effectivement. Ciao, ciao, et portez-vous bien.
À la prochaine, bye bye.